Bonjour à toutes et à tous. Je suis donc David Rosset, le pasteur de cette église. Et puis, on va continuer cette série qu'on a appelée « C'est la base », c'est-à-dire de visiter un peu les fondements de notre foi. Et puis, j'ai fait un peu comme à Hollywood, parce qu'il y a deux semaines, j'avais fait « Houston, we have a problem », c'était la première partie. Et puis, comme ça avait bien marché, et puis qu'on est toujours dans les mêmes problèmes, j'ai fait le deuxième volet de cette série, Houston, we've got a problem. Je vous épargne le film et puis les petits gags qu'il y avait après. Mais on a toujours un problème. Le premier, c'était le péché. Et puis, le deuxième qu'on va discerner ce matin, dont on va discuter ce matin, et même aller un peu plus loin, c'est le problème de l'idolâtrie. Alors, l'idolâtrie fait partie, comme le péché, de notre condition humaine. On est dedans et on va essayer de voir un peu sous quelle forme et quelle forme ça peut prendre. Dieu fait alliance. Claudia nous l'a répété, c'est ce qu'on a vu la semaine passée. Il fait alliance, il fait le premier pas vers nous, il veut cette relation avec nous. Mais nous, puis je dis nous parce que dans tout l'Ancien Testament, c'est le peuple d'Israël, puis après dans tout le Nouveau, c'est l'Église qui a de la peine, puis ensuite dans toute l'histoire du christianisme, c'est l'Église qui a de la peine à rester dans cette alliance. Ce n'est pas seulement les individus, c'est l'Église dans son ensemble, c'est le peuple dans son ensemble qui a toutes les peines du monde à rester dans cette alliance parce qu'on est toujours tenté d'aller sur quelque chose d'autre que nous maîtrisons, c'est-à-dire une idole. Alors, voilà, je parle un peu de moi parce que je suis entre deux âges, on va dire ça comme ça. Ça, c'était les idoles quand moi, j'étais jeune. Ça rappelle des choses à certains quand même, ou bien Nirvana, vous savez pas ce que c'est, Mathieu, tu sais pas ce que c'est. Ah, quand même, c'est... ça n'a pas complètement disparu. Nirvana, Kurt Cobain, ça, c'était toute mon adolescence. Au gymnase, c'était la référence par excellence. Et puis, moi, j'étais quand même un peu plus axé sur autre chose, puis j'étais assez content parce que j'ai retrouvé exactement le même poster que j'avais dans ma chambre de ce joueur de basket dont vous connaissez bien sûr le nom. Non, vous ne le connaissez pas, ce n'était pas Michael Jordan, j'étais toujours un peu dans des personnes un peu moins en vue. Il s'appelait Latrell Sprewell, je l'aimais beaucoup. Et puis, vous voyez qu'il jouait déjà pour les Golden State Warriors. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Mais moi, quand j'étais ado, ils étaient pas vraiment très forts, puis maintenant ça fait 3 ou 4 fois de suite qu'ils sont champions du monde, mais je suis plus pour eux. Ils gagnent trop facilement, alors ça a pas de charme, c'est trop facile. Non, mais c'est dire que c'était un peu les références qu'on avait, et puis c'était presque un peu le côté facile de se dire les idoles finalement. Ça correspond au poster que tu as dans ta chambre. Et puis, c'est vrai que les enseignements qu'on recevait, c'est qu'il fallait faire attention de ne pas mettre trop d'importance sur ces idoles-là. C'était soit des rockers, soit des sportifs. En gros, c'était ça. Comme ça, c'était bien rangé, c'était bien classé. On était tranquille. J'ai le malheur de vous annoncer que ce n'est pas aussi facile que ça. Et puis, c'est ce qu'on va un peu creuser ce matin. C'est que ce serait bien trop beau si on pouvait... comme ça, parquer nos idoles, puis les mettre dans une case, puis dire, voilà, ça c'est fait, c'est bien identifié, je sais que c'est là, j'arrive à vivre avec, et puis on passe à l'étape suivante. C'est vraiment une image assez superficielle de ce qu'est l'idole dans nos vies. Et puis, un grand bonhomme, qui s'appelle, qui est un peu moins musclé que celui-ci, mais qui est plutôt musclé au niveau du cœur et du cerveau, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, c'est un des grands théologiens du XXe siècle qui s'appelle Karl Barth. Peut-être que maintenant que je vous dis non, vous voyez mieux qui c'est. Puis lui, il a commis, ça c'est ma bibliothèque, il a commis une immense dogmatique. Donc il a écrit de son vivant, quand même, c'est assez impressionnant, 26 volumes que vous voyez là sur Dieu, la théologie, la révélation biblique. Essayez de mettre tout ça en mots pour comprendre, voilà, ce qu'il pouvait comprendre. Et je vous parle de cela, pas pour dire que ma bibliothèque elle est bien fournie, ça vous le savez déjà, mais c'est pour vous dire que la principale question que cet homme s'est posée toute sa vie en écrivant sur Dieu, c'était d'éviter de tomber dans le piège de l'idolâtrie. C'est d'éviter de tomber dans le piège de se faire, lui, une mauvaise image de Dieu, et de rester toujours, lui, le plus transparent à la révélation de Dieu, notamment contenue dans la parole de Dieu qui est la Bible. Donc, c'est vous dire que l'idolâtrie, ça va bien au-delà du joueur de basket ou du groupe de rock. C'est quelque chose qui s'immisce, qui peut prendre plusieurs formes, ce qu'on va voir, et c'est surtout quelque chose d'extrêmement complexe. Il y a souvent, pour moi, l'idole, c'est l'idée, la chose ou la situation qui veut prendre l'entier de la place, toute la place. Ce sur quoi on est décidé ou on décide de construire sa vie. Ce sur quoi on décide de poser des actes en faveur d'eux. On fait converger nos actions. C'est une forme d'absolu, une chose ultime, voire même une quête ultime. Et puis, c'est une poursuite sans fin qui crée une espèce de mélancolie. C'est peut-être un peu ça, une des deuxièmes caractéristiques de l'idole. Et puis, je trouve que c'est particulièrement vrai dans nos sociétés qui ont tout. On sent des fois un peu dans l'air cette forme de mélancolie d'une quête qui reste inassouvie. C'est peut-être un peu ça, encore une des caractéristiques de l'idole. Et puis, c'est quelque chose que certains Tocqueville, en 1830, c'était un voyageur, il voyageait aux États-Unis. Et puis, c'était très intéressant parce que, déjà à cette époque, en 1830, il percevait dans des sociétés qui étaient en phase de développement cette forme de mélancolie qu'on n'arrive jamais, finalement, à cette quête absolue. On est toujours un peu frustré, puis toujours un peu dans la nostalgie d'une espèce de paradis perdu. Pour dire que cette tentation idolâtre, elle est vraiment là au plus profond de notre cœur et entraîne cette forme de mélancolie. Et si on se plonge dans l'écriture, quand on dit qu'on va trouver des textes qui sont les fondements de notre foi, je vais vraiment aux textes qui sont les fondements de votre foi, parce que je vous invite à découvrir ou à redécouvrir un texte capital de notre parole, de Dieu, c'est le texte d'Exode 20. Exode 20, ça ne vous dit pas grand-chose. Par contre, si je vous dis les 10 commandements, peut-être que ça va vous en dire un peu plus. Et c'est très intéressant de voir que les 10 commandements, ce texte clé capital de notre foi chrétienne, il commence exactement par ce que je suis en train de vous raconter depuis le début de ma prédication. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. « Moi, je suis le Seigneur Yahvé, ton Dieu. C'est moi qui t'ai fait sortir de l'Égypte, de la maison des esclaves. » Premier commandement, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas de statue, ni aucune forme de ce qui est dans le ciel, en haut, de ce qui est sur la terre, en bas, ou de ce qui est au-dessus de la terre, dans les eaux. Tu ne te prosterneras pas devant ces choses-là, et tu ne les serviras pas, car moi, le Seigneur Yahvé, ton Dieu, je suis un Dieu à la passion jalouse, qui fait rendre des comptes aux fils pour la faute des pères, jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me détestent, mais qui agit avec fidélité jusqu'à la millième génération envers ceux qui m'aiment et qui observent mes commandements. » Premier texte, premier commandement, il nous parle explicitement de l'idolâtrie, c'est-à-dire notre propension à nous fabriquer notre propre Dieu, notre propre quête, plutôt que de nous laisser visiter par Dieu qui fait ce premier pas. Dieu, on l'a dit, il fait alliance, c'est lui qui fait le premier pas, donc d'une certaine manière, c'est lui qui dicte le rythme, c'est lui qui dicte le contenu. Nous sommes appelés à suivre. Puis ça ne nous plaît pas vraiment. Ça, dans le fond, ça nous touche très fort, puis on se dit, ce serait quand même super bien si ce n'était pas Dieu qui me dictait ce que j'avais à faire, puis qui me montrait un chemin. Ce serait quand même nettement mieux si moi, je pouvais, avec mes tripes, avec ma sensibilité, avec mes désirs, façonner ce que j'ai envie de suivre ou qui j'ai envie de suivre. On est au cœur du problème et Dieu le sait très bien. Il reste notre créateur, il reste celui qui nous connaît le mieux. Et la première chose qu'il communique à son peuple avec cette révélation extraordinaire où il y a des tonnerres, il y a tout un ensemble, un contexte qui est fort dans cette déclaration, dans cette révélation des 10 commandements, dans tout ce contexte extraordinaire, la première chose qu'il dit, « Tu ne te feras pas d'autre Dieu et tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. » Alors là, première lecture, c'est toujours assez simple. On se dit, bon, ben, c'est facile, les Israélites, ils fabriquaient des petites statues en or. Moi, je n'ai pas de petites statues en or, à part peut-être quand je vais chez Schilliger, il y a des petits bouddhas. Alors ça, je sais que je ne dois pas les acheter. Mais sinon, je suis assez tranquille, hein, c'est bon, il n'y a pas trop besoin de me poser des questions. Ce que dit la Bible, ça ne me concerne pas directement. Une fois de plus, la Bible va un peu plus loin que le petit Bouddha de chez Schilliger et il nous interpelle par un autre texte. Fils d'homme, ces hommes-là portent leurs idoles dans leur cœur. Ils mettent devant eux l'obstacle qui les fera pécher. Vais-je me laisser consulter par eux, dit Dieu ? Parle donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur Dieu, à tout homme de la maison d'Israël qui porte ses idoles dans son cœur, qui met devant lui l'obstacle qui le fera pécher, et qui vient ensuite vers le prophète, c'est moi le Seigneur qui répondrai. Quand il viendra, je lui répondrai en fonction du nombre de ses idoles, afin de saisir la maison d'Israël par le cœur, eux qui se sont tous éloignés de moi à cause de leurs idoles. C'est pourquoi dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur Dieu, revenez, détournez-vous de vos idoles, détournez vos visages de toutes ces abominations. De nouveau, on est embêté, c'est plus la petite statue. On voit que ça se passe au cœur de nos vies, dans nos cœurs, et c'est de là que tout part. Tout peut être une idole. Et là, je vais peut-être vous choquer, la famille peut être une idole. Le travail peut être une idole. Peut-être que ce sont les temps de vacances, de loisirs. Peut-être que ce peut être l'argent. On peut continuer la liste très longtemps. Ainsi que nous le dit ce texte du prophète Ézéchiel, c'est ce qui se passe dans nos cœurs et qui a envie de prendre toute la place. Qui a envie de se développer, si bien que Dieu, finalement, il se retrouve relégué dans les périphéries de nos vies, les périphéries de nos cœurs. Tout peut être une idole, c'est-à-dire quelque chose que l'on cherche à se fabriquer pour pouvoir maîtriser, mettre la main dessus. Et c'est assez troublant, cette plasticité de l'idole qui peut se fabriquer comme ça, sans que nous nous en rendions compte. Tout peut devenir une idole, et même les meilleures choses. Et c'est pour ça que c'est extrêmement difficile de discerner là où nous en sommes. Ça dépend tout de l'importance que nous y accordons. Quelque chose de très positif comme la famille, comment penser que ça puisse devenir une idole ? Et pourtant, on l'observe lorsque cette famille prend toute la place, devient omniprésente, si bien que plus rien d'autre ne peut exister. Ou bien que la famille devienne quête en soi et que petit à petit, la part de Dieu au cœur de cette relation familiale diminue, si bien qu'il n'existe presque plus. Même là, dans l'exemple par excellence, de nos convictions chrétiennes, et c'est bien, il peut y avoir des risques de toute puissance de cette famille, par exemple. Ça peut être avec l'argent, ça peut être avec le travail, autant de bonnes valeurs, autant de bons axes qui, à un moment donné, basculent dans une forme de toute puissance, de toute présence. C'est interpellant, hein ? C'est interpellant, et ça nous donne vraiment une idée de la puissance de ce lien que nous avons. C'est parce qu'il est au plus profond de nos cœurs et autant en être conscient plutôt que de se voiler la face, de se cacher les yeux, de dire qu'il n'y a rien du tout. Une deuxième caractéristique des idoles, c'est qu'elles ont un potentiel d'évolution quasi infini, notamment au cours d'une vie. À une certaine période, on sera peut-être tenté de suivre telle ou telle chose. À une autre période de notre vie, on va changer nos fusils d'épaule. Et puis, un des meilleurs exemples de cette plasticité, toujours, de cette capacité d'évolution, ça reste de comparer les idoles des temps bibliques avec les nôtres. Et puis, on se dit que là, la Bible ne nous parle pas de choses précises, typiquement la statuette en or, j'ai fait le petit gag avant avec la statuette Schilliger, mais bien de nous dire que ça va au-delà. Ce n'est pas le but de comparer dans les textes bibliques la lettre, d'une certaine façon, de la statuette, mais de regarder ce qu'il y a derrière, comme dans l'interpellation du prophète, de dire, mais qu'est-ce qui touche nos cœurs et qu'est-ce qui nous met en route? Qu'est-ce qui nous fait aller en avant dans notre vie? Qu'a-t-on à faire avec des statues de bois et d'argent au XXIe siècle? Rien. Qu'a-t-on à faire au XXIe siècle avec une autre idole fameuse de la Bible? Qu'a-t-on à faire avec un veau d'or? Absolument rien. Il y a juste un artiste qui se fait payer des centaines de milliers de francs pour faire un veau d'or, ça marche encore. Mais nous, dans nos vies quotidiennes, rien du tout. Et pourtant, il n'y a aucun anachronisme. C'est absolument juste de continuer à essayer de débusquer des idoles dans nos vies. Simplement, ce ne sera pas ces idoles-là, c'est autre chose. En raison de la plasticité des idoles, de leur incroyable capacité à s'adapter, à se renouveler, c'est moins l'objet qui va nous intéresser que le fait qu'il existe au cœur de nos vies. Et que ce discernement, cette lumière qui doit être mise dans nos cœurs, elle est constante. Car notre envie de faire des idoles est tout aussi constante. Je me rends bien compte que c'est exigeant. C'est exigeant parce que la vie chrétienne, je crois qu'elle est exigeante, puis qu'elle n'est pas faite de recettes qu'on peut appliquer comme ça, de manière un peu simpliste. Elle est dans notre capacité de discerner ce qui est au cœur de nos vies, au cœur de nos personnalités, et de nous laisser interpeller par Dieu et sa parole, de nous laisser interpeller par l'Esprit Saint qui fait la lumière dans nos cœurs. Une dernière caractéristique, c'est peut-être que l'idole, lorsqu'elle grandit, lorsqu'elle évolue, elle le fait rarement sous les feux des projecteurs. Elle le fait souvent de manière assez insidieuse, dans une certaine discrétion. Et puis c'est seulement lorsqu'elle a rempli trop d'espace que tout à coup, on ouvre les yeux et puis on se dit « Ah, mince, là je pense j'ai raté le coche, je ne suis plus dans la vérité. » Ça grandit dans une certaine discrétion et tout à coup, c'est là devant nous et puis on se demande « Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire avec ?» Autant de caractéristiques, cette plasticité, tout peut devenir idole, cette capacité d'évolution absolument incroyable, que cette discrétion, sont trois pôles que je nous invite à garder en tête. Plasticité, évolution, discrétion, pour nous dire, nous aider de manière là, pour le coup, assez concrète, à débusquer et à discerner quelles peuvent être les idoles dans nos vies. Plasticité, évolution, discrétion. Et à partir de là, on peut se poser des questions en Église et chacun pour soi, de se dire quelles sont les idoles qui sont au cœur de ma vie. Et puis on peut se le dire en toute, je ne peux pas dire bonne conscience, ce n'est pas le bon terme, mais en toute transparence, parce que l'aspect de comparaison les uns les autres, il ne va absolument pas exister, puisque j'ai la bonne nouvelle de nous annoncer qu'on est tous à la même enseigne. Comme nous sommes tous des êtres humains, hommes et femmes, on a tous dans nos cœurs cette envie de fabriquer nos propres dieux et de fabriquer notre propre firmament, notre propre panthéon. C'est en nous. Ça ne sert à rien de regarder si à gauche, à droite, c'est le cas aussi. C'est en nous, alors balayons d'abord devant notre porte. Finalement, l'idole, je crois que c'est ce que nous dit la parole, c'est la spécialiste des promesses non tenues. Un peu comme on a voulu le montrer avec cette image très scintillante d'or qui peut nous faire miroiter toutes sortes de soi-disant belles choses. C'est quelque chose qui a l'air beau, mais qui nous laisse finalement sur notre faim. Et c'est là que de placer notre confiance en Dieu prend toute sa force. Et c'est pour ça que Dieu commence les commandements, non pas par dire « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi », mais il commence les commandements par dire qui il est lui et qu'est-ce qu'il a vraiment fait lui dans la réalité de nos vies. Ce qu'il fait, on a vite tendance à l'oublier puis à se dire finalement il n'agit plus, il ne fait plus rien. Le peuple d'Israël, ça a été ça tout le long. Comme il ne fait plus rien, il n'est plus vraiment plaisant, qu'est-ce qu'on va faire? On va se faire un veau d'or parce qu'on a besoin qu'on en remette une couche, qu'on soit rassuré. Dans nos vies, c'est exactement la même chose. Et c'est pour ça que Dieu commence sa révélation des 10 commandements par cette parole sur lui-même. Alors Dieu prononça toutes ces paroles, « Je suis, moi, je suis le Seigneur ton Dieu. C'est moi qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, c'est moi qui te libère, c'est pas quelque chose d'autre. Donc, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. » Ce n'est pas une position légaliste. C'est une position de reconnaissance de ce que Dieu a déjà fait dans notre vie si on a décidé de le suivre. Si on a décidé de le suivre, puis de chanter comme on l'a chanté avant de manière magnifique, « Christ est roi » tous ensemble, si on a décidé de vivre cette réalité de la royauté de Dieu dans nos vies, La conséquence logique, c'est de se dire, il n'y aura pas d'autre Dieu devant ma face. Il n'y en a pas d'autre. Parce qu'on a décidé de suivre en toute conscience et en toute connaissance qui est ce Dieu. Alors, cette réalité des idoles, elle est bien là, parce que ça fait partie de notre nature humaine. Cette réalité de la confession, de dire qui est Dieu pour nous, c'est moi, le Seigneur ton Dieu, c'est moi qui te libère, est tout aussi importante comme une espèce d'antidote. Je crois que ce combat que nous sommes appelés à mener, comme le combat contre le péché, le combat contre les idoles de nos vies, c'est un combat pour toujours pouvoir plus affirmer dans nos vies et nous souvenir de qui nous sommes partis, de qui nous faisons partie de ce peuple qui a décidé de suivre son Dieu, qui l'a fait sortir du pays d'Égypte. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi, est simplement une conséquence de cette décision que nous avons prise ou que peut-être nous allons prendre dans les mois, les semaines qui viennent. De toujours revenir à nous. Et en écho, on peut faire nôtre cette dernière mention dans notre Père. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi, et on le réaffirme à la fin de la prière, qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est de se dire, oui, mon Dieu, je vais te mettre dans cette place-là que toi tu mérites, parce que c'est toi qui jamais ne va me décevoir. Dans cette alliance, il y a un pôle fiable, c'est le pôle divin. Il y a un pôle un peu aléatoire, c'est nous. Puis Dieu, il nous aime comme ça. Mais notre rôle, c'est de se dire, on ne va pas essayer de créer un deuxième pôle fiable, parce que jamais il sera fiable. Jamais il sera fiable comme Dieu l'est. Notre rôle, c'est de se dire, on peut revenir au cœur de cette alliance, et toujours, à l'instar du Fils prodigue, on sera accepté au cœur de cette alliance. Alors, je nous invite à une petite... à une phase pratique ce matin. Je ne sais pas si je peux demander à Claudia puis Mimi de distribuer. Alors, pour chaque phase pratique, je sais bien que ça met un petit peu une zone d'inconfort parce qu'on se dit, bon, voilà, comment est-ce qu'on va réagir? Donc, la première des règles, c'est que vous allez en toute liberté. Si vous avez envie de rentrer dans l'exercice, vous y rentrez. Si vous ne voulez pas y rentrer, vous le faites en toute liberté. Mais l'exercice que je vous propose ce matin, c'est de vous dire de prendre un temps maintenant, puis d'essayer de noter une chose. Quelle est l'idole principale aujourd'hui dans ma vie quotidienne? Puis une question subsidiaire, est-ce que c'est facile de l'identifier avec tout ce que je vous ai dit? Une idole qui peut être plastique, c'est-à-dire qui peut prendre toutes les formes. Une idole qui est en constante évolution. Et une idole qui finalement nous laisse sur notre faim. Et puis, tout simplement, si vous arrivez à discerner, si vous arrivez à faire la lumière, de pouvoir le noter sur ce papier, individuellement, et dans un deuxième temps, sans forcément dire à votre voisin que vous avez salué tout à l'heure, qu'est-ce que vous avez noté sur votre papier, mais simplement de prendre un temps où on peut s'encourager les uns les autres dans notre lutte quotidienne que nous avons dans cette manière de fabriquer nos propres idoles. Alors je nous laisse, je ne sais pas si on peut passer un peu de musique, Adam, ou bien pas, pendant ce temps-là, douce musique, mais qu'on puisse prendre ce temps maintenant de un peu de mise en pratique, pour pas que ça ne retourne sans qu'on ait essayé d'agir là-dessus. Je vous invite à la prière pour réunir toutes ces prières qui montent. Notre Père, merci parce que nous pouvons nous approcher de toi en étant sûrs et certains de ta grâce et sûrs et certains de la force de ton alliance. Et c'est pour ça que nous pouvons avoir la liberté de revenir à toi en toute confiance. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu de lumière qui désire faire la lumière sur nos vies. Merci parce que cette lumière nous sauve, cette lumière nous libère. Et Seigneur, je te prie pour toutes nos idoles qui sont les nôtres dans notre contexte suisse du 21e siècle, Seigneur, notre contexte personnel, Seigneur, que tu puisses nous visiter, que tu puisses mettre ta lumière là où elle a besoin d'être. Seigneur, que nous laissions ces portes ouvertes parce que nous savons quel Dieu tu es, ce Dieu plein d'amour, ce Dieu plein de confiance, c'est Dieu qui nous fait confiance malgré nos imperfections. Seigneur, merci parce que tu nous tends cette main et fais-nous la grâce de pouvoir la saisir. Amen.